Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curiosité, votre émission quotidienne et locale sur Prune. Vous êtes bien sur le 92FM et que vous nous écoutiez au bureau, dans la voiture, dans votre douche ou au bistrot, je vous souhaite la bienvenue. Antoine n'est pas avec nous ce soir, on lui fait un coucou tout de même et j'ai le plaisir donc d'être votre animatrice. On va passer une petite heure ensemble pour défricher les initiatives locales solidaires et engagées, partager de la musique qu'on aime, parler cinéma, art et géopolitique. Nous sommes le 15 mars 2023 et ce jour signe aussi la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Nantes, le cortège s'est lancé à 10h30, comme à son habitude, au miroir d'eau. Ils et elles étaient aujourd'hui 35 000 à battre le pavé à Nantes. Beaucoup de secteurs étaient en grève aujourd'hui, en Loire-Atlantique et partout en France, dans l'éducation, l'énergie, les éboueurs aussi, qui sont en grève reconductible. Des blocages sont également, ils ont fleuri dans plusieurs sites de déchetterie, dans les lycées. Les jeunes et les moins jeunes sont dans la rue. Alors que le projet de loi doit être voté ce jeudi à l'Assemblée, dans cet échiquier politique, qu'adviendra-t-il de nos retraites ? Passera ou ne passera pas ? La carte du 49-3 sera-t-elle une énième fois dégainée par le gouvernement ? Malgré des contestations vives et une opinion publique majoritairement défavorable à cette réforme. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement veut faire reculer l'âge de départ à la retraite, les syndicats, jeunes, vieilles et vieux, sont elles et eux prêtes et prêts à faire reculer ce projet de loi. Pour ne pas être que des pions en politique, bravons l'hémicycle, car c'est aussi dans la rue que ça se joue. Et revenons désormais à notre sommaire du jour, concocté comme d'habitude par une équipe toujours au top. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet tout aussi important en cette semaine d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Nous recevons ce soir Alexis Chevalier, metteur en scène et créateur de la pièce « Rue du retour ». Un spectacle conçu et écrit à partir de lettres de jeunes palestiniens et palestiniennes du camp de réfugiés de Jérine. Il est au micro de Perrine. Bonjour Perrine.
Salut Elena, c'est Jenine le camp.
Jenine,
t'as fait un mélange avec un petit mon mélange. Prénom.
Oh, j'ai fait un petit mix. Bon. Ensuite, nous recevrons Morgane pour la chronique cinéma, le quatrième mur. Bonjour. Salut. Morgane, comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va, de quel film tu nous parles ce soir ?
Je parle de Revoir Paris. Oui, encore avec Virginie et Fira.
Je l'ai vu hier soir.
Ah bah, écoute.
C'était le destin.
Eh ouais, les étoiles s'alignent là ce soir.
En milieu d'émission, Lola vous fera gagner des places de concert. C'est la pause cadeau. Donc, à vos smartphones. Ensuite, ce sera Chloé. Chloé pour le Zoom. Comment ça va ce soir ?
Ça va, merci.
Tu recevras Guillaume Barriot, directeur artistique de la compagnie Biche Prod. Ils et elles organisent un festival au nouveau studio théâtre, qui mêle création sonore et performance. On en saura plus tout à l'heure. Et enfin, on terminera l'émission par ma chronique de la vida locale. Et en cette période de fin d'hiver morose, je suis allée questionner les Nantaises et les Nantais sur leurs astuces feel good. Et sans oublier ce soir, bien sûr, celui que vous n'entendez pas dans nos jolies voix, mais c'est Seb à la Réal. Hello Seb, tu nous entends ?
Bonsoir.
Vous êtes sur le Prune 92 FM, il est 18h, sans plus attendre, on passe à l'entretien d'Alexis Chevalier, metteur en scène de la pièce Rue du Retour, un récit qui raconte le conflit israélo-palestinien. C'est l'entretien de Perrine.
Curiosité, l'entretien.
Les SECD, ce sont les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. C'est un dispositif départemental coordonné par la Ligue de l'enseignement FAL 44 qui regroupe un collectif de plus de 120 acteurs de Loire-Atlantique. Pour cette 14e édition, elle nous propose une programmation variée sur l'ensemble du mois de mars et dans différents lieux pour lutter contre les discriminations et mettre en lumière les acteurs qui s'y engagent. Les SECD permettent chaque année de créer du lien et une culture commune entre les acteurs du territoire qui se préoccupent des questions d'égalité, tout en mettant en valeur leurs engagements. Mais les discriminations, c'est quoi ? Eh bien, le terme de discrimination renvoie à de nombreuses notions. Inégalité, système d'oppression et de domination, racisme, sexisme. En droit, selon la loi du 27 mai 2008, une discrimination est un traitement défavorable fondé sur un critère défini par la loi et relève d'une situation visée par la loi, comme l'accès à un emploi, un service, un logement. À ce jour, la loi reconnaît plus de 25 critères de discrimination, comme l'âge, le sexe, l'origine, le handicap, l'orientation sexuelle. Ça, c'est pour la France. Pour le reste du monde, il y a bien sûr le droit national de chaque pays, mais aussi le droit international. Et des formes de discrimination qui existent dans le monde, elles sont malheureusement nombreuses. Notre invité de ce soir nous parlera de l'oppression du peuple palestinien. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le créateur et metteur en scène, on l'a déjà dit, de la pièce de théâtre intitulée « Rue du Retour ». Bonsoir Alexis Chevalier.
Bonsoir Perrine, bonsoir à tous.
Rue du Retour, c'est un spectacle conçu et écrit à partir de lettres de jeunes palestiniens et palestiniennes du camp de réfugiés de Jenin, une des deux grandes villes du nord de la Cisjordanie occupée. Alexis Chevalier, vous aimez travailler avec votre troupe sur le terrain, avec la population, les établissements scolaires, les associations culturelles, les troupes amateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la Palestine ?
Alors, c'est un texte qui, en fait, a été écrit par les Palestiniennes et les Palestiniens eux-mêmes, qui ont été recueillis par une photographe qui s'appelle Joss Dre, qui est une photographe qui a participé à la vie des Palestiniens depuis 1981, je crois, les premières fois où elle est allée là-bas. Elle a vécu dans la bande de Gaza et elle a participé aux différentes intifadas, particulièrement la première et la deuxième, hein, la première en 87, la deuxième en 2001-2002. Et elle est allée séjourner énormément de fois là-bas. C'est une photographe, donc elle a fait beaucoup de reportages. Et en 2015-2016, elle s'est établie dans le camp de Jenin. Et auprès de la population, elle leur a donné des appareils photo aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, en leur demandant de photographier leur quotidien. Et à partir de ces photos, une fois que les photos ont été faites, elle les a sollicitées pour qu'ils écrivent des textes qui légendent les photos, qui illustrent les photos. En fait, les textes, voilà. Ça a été très difficile, parce que ce genre de témoignage, de parler de soi et de mettre des mots sur du quotidien, ça a été très difficile pour eux. Enfin, elle a réussi à leur faire écrire quand même des choses. Et en 2017, elle m'a donné ces textes-là.
Vous connaissiez déjà, du coup ?
On s'est rencontrés, oui. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de la FPS 44, l'association France-Palestine Solidarité 44. Et on a fait connaissance. Et Joss m'a donc donné ces textes-là pour que je puisse en faire des lectures à l'intérieur des expositions de photos qu'elle organisait. Le projet donc a été repris par la FPS pour sa production. Et on a décidé de faire une première version du spectacle à la Bottière, avec les jeunes de la Bottière. Donc c'était avec l'Accor, l'association Accor de Nantes.
Des
maisons de quartier, voilà. Et donc à la Bottière, c'était une dizaine de jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans qui ont fait cette première version du spectacle. Alors, on a pu le présenter 7 fois, soit sur la région nantaise ou à l'extérieur. On l'a joué à la Chapelle-sur-Erdre et on l'a joué aussi à Montreuil-sous-Bois, dans le cadre d'une escapade à Paris. Ça a été quelque chose d'assez important. Puis les jeunes ont grandi et ils sont partis au lycée pour une partie. Donc le projet s'est un petit peu arrêté et on a décidé de le reprendre. Malheureusement, on l'a repris juste avant le Covid. Et là, du coup, on a changé la distribution. On n'a gardé qu'un seul jeune de la distribution, Mathieu. Et cette deuxième version a été jouée par des étudiants, des jeunes étudiants de 20, 22, 23 ans. On n'a pu le jouer que 3 fois à cause du Covid. Hein. On l'a joué 3 fois. Et on l'a repris une troisième fois. C'est cette version-là qui est aujourd'hui en cours, avec une distribution et aussi d'étudiants et de travailleuses et de travailleurs, qui va entre 18, Mathieu, qui est resté toujours dans la distribution, des jeunes qui ont 28, 29, 30 ans, et puis une femme qui a 50 ans. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont sept comédiennes, comédiens qui l'interprètent, cinq femmes et deux hommes. Voilà.
Alors, vous étiez présent justement avec cette même pièce au festival Tis et Métis en décembre dernier. Vous serez certainement présent au Festisol, le Festival des Solidarités, en novembre prochain. Et vous voilà en ce moment au SECD. Vous êtes de tous les grands rendez-vous nantais de solidarité et de mixité culturelle.
Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement oui. Parce que c'est un projet qui porte en lui effectivement toutes les questions de solidarité, de discrimination, de lutte pour les droits humains. Donc, à travers le peuple palestinien, malheureusement, on regroupe toutes ces questions-là, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, des spectacles doivent se faire écho les uns les autres, peut-être même des synergies secrètes. Est-ce qu'il y a justement des points communs entre ces différents acteurs qui prennent part activement à ces festivals, à ces événements?
Oui, bien sûr, puisque ce sont les thèmes des droits humains, donc que ce soit la défense des droits des femmes, que ce soit la défense des minorités ou que ce soit la défense du droit international, effectivement, tous les thèmes, toutes les valeurs sont regroupées.
Alors, dans le cadre des SECD, est-ce qu'on pourrait parler du coup de convergence des luttes, puisque vous venez d'évoquer pas mal de thèmes, comme l'évoquait aussi Angela Davis, qui est une militante féministe noire américaine, dans un recueil de textes qu'elle avait appelé une lutte sans trêve, c'est-à-dire tous ensemble contre l'oppression de quelques populations que ce soit, pour des luttes émancipatrices interconnectées. Comme on est aujourd'hui un petit peu dans une lutte globale aussi pour la réforme des retraites, est-ce que...
Oui, je crois que tout se tient. Il s'agit simplement de défendre des valeurs et puis de respecter l'être humain dans son intégrité. À partir du moment où on touche à l'intégrité humaine, on touche à toutes ces valeurs que les différentes associations de défense des droits pour lesquelles elles luttent, quoi.
Bon, on a encore une petite minute avant la pause musicale. Pour revenir à la situation particulière que vous décrivez dans votre pièce, pourquoi avez-vous choisi de développer, un, la thématique du camp de réfugiés, et deux, celui de Jenin?
Le camp de Jenin est un petit peu exemplaire dans sa lutte de résistance. Aujourd'hui, d'ailleurs, les Israéliens ne s'y trompent pas. Hein, c'est le camp de Jenin qui paie le plus fort tribut au niveau des attaques et de la répression de l'armée, voire des colons. Le camp de Jenin a toujours eu cette volonté de résister à l'oppresseur et de revendiquer les droits fondamentaux des Palestiniens. Hein, il n'y a pas que Jenin, mais Jenin particulièrement.
Parce qu'il existe, une quarantaine de camps de réfugiés palestiniens un peu partout dans les pays voisins, à l'intérieur de la Cisjordanie, à Gaza, et aussi en Libye, au Liban, en Syrie et en Jordanie.
Tout à fait.
Bon. On a 5 millions et demi.
C'est aussi parce que le camp de Jenin est un camp historiquement très, très lié avec la FPS 44. Depuis 2003, il y a des liens très forts de coopération avec la FPS, et donc des projets qui ont été développés et qui continuent d'être développés avec Jenin.
Donc la FPS qui a été le lien entre Just Dre et vous-même.
Voilà.
Ça va nous faire notre petite transition pour avoir notre petite pause musicale, puisque nous sommes déjà au milieu de notre entretien. Et nous allons nous évader avec Constancy, qui est un MC palestinien originaire de Jérusalem. Et son titre, Mafar, signifie évasion en arabe. Admirez la puissance et la créativité. Et restez avec nous, car on se retrouve tout de suite après avec Alexis Chevalier, metteur en scène de la pièce de Rue du Retour.
ناس بالغصب نعلاش مع حدود في زلام للحرب try me one man army وقت الجد زمان سبقتكم لو كان هداك الدرب كل شي تغير لما شاف الغرب باكسر fuck the world امناك الارض underground شلة اللي مداء الزرب إذا جعت باكل رابرز ما باكل هم بس لسا عم ننطرد فسامع شرب تسلى الباب الدار بدو البلاد والارض بدو هوية وكشان للولاد صغار راح اضف بلاي على غاد ومفار بس لازم ضلوا رايق لانو شو ما صار الانتقام احلى طعم للي داق الغادر عاد ادور على شرفك ما صح ليش في الاخر زلمتك كسرك
طرف شكله ضعيف الحقيقة بفرجيك بشعشع وبعميك هذا الحريق خليهم يحكوا سخطك بليس ساعة واحدة سيستم بخبط امي تقولي تصحنيش قلت لها يا ما كيف وانا جاي صحي جيل بس لا ما تصحيش ليش نصائح تعطنيش كذا في talking keys بلا فك مفاتيح فكر اسوي حفلة واحرق كبريت خلي النار تبلع حيفة زي لحمة على سيخ عفريان وعفريت مصاب يا كتاكيت جيت وجبت العيد متراقبة روح تطير ناس السواد تحت عيون شاعر تربهم بالشارع بين الجنود احمد ربك ليش تتربط بين الجنود نو ويف يارد بوك هون تتربى بين البول ain't nobody safe better be ready to swing hey better hey ain't nobody safe better be ready to swing like hey better hey ولك شوف نجيك زي جوج ومأجوج ومسخط كل مقرن حاول حطنا بين حدود وين اللي بده يدخن تاع ضايق بين الغيوم you can either follow your dreams or follow the rules now you're feeding them lies say I ain't civilized but I came with the truth like a seer in disguise see the fear in your eyes every time that I rise like a phoenix that appears in a fire هون المعدة مضمون الله معنا لنموت كل رصاصة مقصودة والمعنى مفهوم هون المعدة مضمون الله معنا لنموت كل رصاصة مقصودة والمعنى مفهوم انت معنا او شو بطل ارد هذا صفة مجهول صفة مجهول فكر صاصة مقصودة والمعنى مفهوم
Venez d'écouter Mafar du MC palestinien Constancy qui, par le hip-hop, cherche à trouver un moyen de sortir de sa situation actuelle comme un échappatoire personnel. Il y a à mes côtés une autre personne qui cherche à ce que la situation change. C'est Alexis Chevalier, metteur en scène et créateur de Rue du Retour, création théâtrale qui sera jouée le 22 mars à Bellevue dans le cadre des SECD. On parlait juste avant cette petite pause musicale du camp de Djenin et de sa spécificité. Est-ce qu'on pourrait parler de la thématique des camps de réfugiés de manière générale et du camp de Djenin et peut-être de son histoire ? Pourquoi, en effet, vous disiez que c'était la cible de l'armée israélienne depuis déjà un petit moment ? Est-ce qu'on peut rappeler quelques faits historiques de ce camp de réfugiés de Djenin ?
Je crois, sans affirmer qu'il a été créé en 1953, suite effectivement à cet exode qu'on a provoqué, que les Israéliens ont provoqué en chassant les Palestiniens du territoire que l'ONU avait déterminé, enfin avait donné aux Israéliens en 48 pour créer l'État d'Israël. Petit à petit, les Palestiniens qui étaient sur le territoire israélien ont été amenés à prendre position et à quitter de gré ou de force d'ailleurs pour certains ce territoire israélien et ils ont cherché refuge sur le territoire de Cisjordanie. Donc ils sont arrivés sur des villes en proximité de villes comme Djenin.
Donc ceux qui habitaient visiblement comme c'est le cas à Djenin au bord de la mer à Haïfa se retrouvent au milieu des terres au nord de la Cisjordanie par exemple.
Absolument. Imaginons que une population arrive à proximité de notre ville, il n'y a pas forcément des terres à disposition pour les accueillir, et puis la population n'est pas forcément prête, même si ce sont des gens de notre culture et de notre société. Donc ces gens ont créé en 1953 ce camp qui était au départ des camps de baraquement,
de fortune,
et puis petit à petit, sur ces quelques kilomètres carrés, il a fallu faire habiter une population qui était de plus en plus importante. Donc les maisons se sont construites en hauteur, avec des rues très, très étroites.
Oui, c'est ça, la superficie, elle, ne pouvait pas changer, et le nombre de personnes augmentait.
Voilà.
A priori, il y a plus de 15 000 personnes aujourd'hui dans le camp de réfugiés de Djenin sur une ville qui ne compte que 40 000 habitants. Donc c'est un énorme faubourg de la ville. C'est assez incroyable, ça prend une démesure folle.
Voilà. Donc l'envie de ces gens, c'est d'avoir une vie de plus en plus normale, ça s'explique, mais ils sont privés de beaucoup de choses. Pour les jeunes aujourd'hui, ils sont privés de travail, ils sont privés de liberté de circulation, ils sont privés de tous les droits fondamentaux, et l'avenir est complètement bouché, donc ils ne voient pas de perspective. Donc il y a un moment, la résistance, parce que ce n'est pas du terroriste, c'est de la résistance toute simple, comme on a pu la connaître.
Quand on est occupé, par rapport à l'occupant de l'armée israélienne.
Voilà, de la dernière guerre. On peut comprendre que les jeunes, à un moment, ils ont envie de défendre leur existence, tout simplement, et leur avenir. Voilà. D'où cette violence qui peut se mettre en place récemment, face à une position qui avait été prise par leurs parents ou leur famille durant les 25 dernières années, où on a essayé où les Palestiniens ont essayé de négocier avec Israël pacifiquement. Et aujourd'hui, les jeunes disent à leur famille, ben non, l'exemple que vous nous avez donné n'est pas forcément le bon, et on a envie, nous, d'en découdre et de manifester notre résistance avec les armes.
Donc on peut rappeler qu'en 1967, durant la guerre des six jours qui a été déclenchée par Israël, la Cisjordanie a été occupée, ainsi que Gaza. En 1993, vous venez de le dire, les accords d'Oslo ont déterminé une certaine forme d'autonomie de l'autorité palestinienne sur certaines zones A, dont fait partie Jenin, donc la zone A dans laquelle Israël n'est pas censé intervenir, à part de manière militaire. Et en 2002, un événement quand même assez conséquent, une opération Rempart, donc encore un raid de l'armée israélienne, qui a détruit la moitié du camp avec des bulldozers, et qui a fait un massacre de 52 civils palestiniens. Donc ce camp de Jenin, j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup souffert, et qu'il a en effet des raisons, peut-être de ce que vous venez de dire, d'aujourd'hui, d'avoir des envies de révolte. Alors pour revenir à votre pièce, une phrase, c'est « Mon droit, c'est de sourire et de rêver ». C'est une phrase qui est clamée par un jeune Palestinien du camp de Jenin dans votre pièce. Cette rue du retour, qui est le nom de la pièce, existe bien dans le camp de Jenin, mais quel en est le symbole et à quoi fait-elle référence ?
Tout simplement un droit qui est bafoué pour les Palestiniens, c'est-à-dire que dans les accords de l'ONU en 1947, quand le partage a été fait pour que les Israéliens aient un État, l'ONU a décrété d'ailleurs, dans l'accord d'association Europe-Israël, enfin avec le monde, que ce territoire allait être attribué aux Israéliens. Ce qu'on a oublié tout simplement, c'est que les Palestiniens n'ont pas été consultés, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Et ce droit à l'autodétermination dans le droit international, il est important. Et c'est un malentendu sur lequel repose aujourd'hui toute la situation que l'on connaît. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Palestiniens n'ont été reconnus en tant que peuple pouvant prétendre avoir un État.
C'est-à-dire que quand Israël s'est créé, eux, ils ont été chassés. Ils sont plus de 750 000 à avoir dû fuir.
Oui.
C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui réfugiés et qu'ils ont le fameux droit dont vous parlez. C'est un fameux droit au retour.
Voilà. Et donc ce droit au retour, c'est qu'on leur a fait croire qu'ils partaient de chez eux pour aller dans les États en Cisjordanie et qu'ils avaient droit de revenir. D'où le fait qu'ils aient emmené les clés et que la clé soit le symbole de ce droit à revenir dans leur maison. Sauf que pour la plupart, les villages dans lesquels ils habitaient ont été détruits par les Israéliens. Et aujourd'hui, on leur dénie ce droit au retour dans leur village originel.
Alors que quand l'ONU intervient, un camp de réfugiés, c'est censé être une situation temporaire, transitoire, en attendant de pouvoir rentrer chez soi, en effet. Alors si un retour dans les villages d'origine semble aujourd'hui bien difficile, pour ne pas dire impossible au vu de la situation qui ne s'améliore pas, un retour à une vie normale est-il envisageable ?
Si on avait la solution, ça se saurait. Aujourd'hui, on est dans un rapport de la société palestinienne à son autorité qui la société palestinienne ne reconnaît plus l'autorité palestinienne, hein, qui a été obligée de faire trop de compromissions avec Israël, avec l'autorité israélienne, et donc il n'y a plus de confiance.
Qu'elle n'est plus représentée par personne.
Elle n'est plus représentée par
ni
personne.
Ni défendue.
Voilà. Donc on a de la peine à imaginer aujourd'hui effectivement que deux États soient possibles. Pour y être allé récemment, on se rend bien compte que ce parcellement des territoires ne rend plus possible l'idée d'un État parallèle avec celui d'Israël. Donc, l'autre solution qui voudrait que tout ce territoire de la Palestine soit partagé par les deux peuples, qui pourrait sembler être une possibilité, semble aussi très compromis quand on voit aujourd'hui le nouveau gouvernement de Netanyahou avec ses ministres d'extrême droite que sont Smotrich et Ben-Gvir qui veulent eux mettre en place un État théocratique.
On peut dire qu'ils sont Smotrich et le ministre des Finances du coup d'Israël et Ben-Gvir le ministre de la sécurité nationale.
Voilà, plus ministre Smotrich et ministre des Finances et Ben-Gvir.
Et des affaires civiles maintenant aussi en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'ils s'occupent aussi des colons et donc des colonies.
Ce qui était avant l'affectation simplement de l'armée. Et aujourd'hui, donc, il a tout pouvoir. Et ils veulent faire un État théocratique. C'est-à-dire qu'ils veulent, du Jourdain à la Méditerranée, faire le grand Israël, mais sur un principe religieux. C'est quelque chose qui paraît complètement aberrant dans un État qui se veut démocratique. Aujourd'hui, la question, elle est là.
C'est-à-dire... Et la question de la démocratie, justement, est remise en question aujourd'hui, même par les Israéliens eux-mêmes, qui s'aperçoivent bien que la démocratie n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On parle d'un État qui devient illibéral, voilà. Antidémocratique. On n'a plus beaucoup de temps, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'Israël et de la Palestine ce soir. Mais en tout cas, on peut citer peut-être les deux événements récents, justement, qui ont encore eu lieu dans le camp de Jenin depuis ce début 2023, pour montrer l'acharnement de l'armée israélienne sur ce camp. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Eh bien, il y a eu le 26 janvier l'intervention de l'armée qui a déclenché toute cette nouvelle résistance violente de la part des Palestiniens. Donc c'est bien l'armée israélienne qui est à l'origine de tous les événements qui se passent depuis deux mois et qui crée ce nombre de morts incroyable.
Donc elle a fait un raid dans le camp de réfugiés.
Dans le camp de réfugiés, voilà. Donc, ce qui a déclenché après la réaction à Naplouse et à Ouara, donc, dont on a entendu parler dans les médias.
Ce premier 26 janvier, ça a fait 9 morts.
9 morts. Et le 6 mars, l'armée est à nouveau intervenue. Et là, ils ont fait 6 morts.
Hein. Et on est aujourd'hui, donc on est le 15 mars aujourd'hui, on est à plus de 90 morts palestiniens depuis le début de l'année. Donc c'est beaucoup plus qu'un mort par jour et en majorité des civils. On dit souvent que l'histoire est écrite par les chasseurs et les vainqueurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore le cas ici ?
Je ne sais pas quoi répondre à cette chose-là. Voilà, ce qui est important, c'est de parler du peuple palestinien. Quand on va les voir, ils nous disent « venez nous voir », c'est très important. On se sent isolé par rapport à l'Ukraine, par rapport à ce qui se passe dans le monde. On est les parents pauvres, entre guillemets, de l'information. Venez, et puis parler de notre situation, parler de ce qu'on vit, de l'impossibilité de notre existence. Hein. D'où l'importance que moi j'apporte au théâtre pardon, pour pouvoir transmettre cette parole-là et à la fin de chaque spectacle créer un débat. Donc on joue le 22 mars prochain à la maison de quartier de Bellevue, rue du Jamais, à 19h30. Et on joue le 14 avril à Bouguenay. Ce sont les amis d'Aboudis qui nous font venir au centre Marseille.
Alors, est-ce que vous faites du théâtre pour mobiliser un autre public et notamment sensibiliser des jeunes aujourd'hui autour de cette cause ?
Bien sûr, on les mobilise par le jeu, c'est-à-dire avec les acteurs qui y jouent. Et puis, bien sûr, on invite les jeunes à venir. On jouera d'ailleurs dans le cadre d'une exposition au mois de novembre à Ancenis pour les écoles. Et donc, on fait tout ce qu'on peut pour que la jeunesse soit informée au mieux de cette cause.
Et c'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup Alexis Chevalier d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes metteur en scène et créateur de la pièce Rue du Retour qui sera jouée. La prochaine date, c'est le 22 mars à 19h30 au Centre socioculturel de Bellevue dans le cadre des SACD. Chères auditrices, chers auditeurs, si l'injustice, l'impunité et l'oppression vous sont insupportables, courez voir cette pièce pleine d'humanité et de sensibilité. Vous y découvrirez une autre facette de ce qui est communément appelé conflit israélo-palestinien et cela vous donnera un éclairage différent sur le monde. Toute la programmation des SECD est sur le site de la Ligue 44. Vous y trouverez dessiner, débat, des conférences, des ateliers, des expositions et des spectacles. Je vous souhaite une bonne soirée car je suis en retard.
Merci.
Et merci à vous Alexis Chevalier d'être venu dans nos studios. Merci à Perrine. Tout de suite, on retrouve Morgane pour la chronique cinéma Le Quatrième Mur.
Thank you. bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Et oui, vous saviez que ça allait arriver, c'était inévitable, on va reparler de Virginie Efira. Mais c'est vraiment pour la bonne cause cette fois, je vous jure. C'est un film qui m'a particulièrement touchée et pour lequel elle a reçu le César de la meilleure actrice. Oui, c'était celui-là dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Sachez d'ailleurs que ce film n'a pas été nommé dans les catégories meilleure réalisation et meilleur film. Et donc on dit merci à l'Académie des Césars qui nomme encore et toujours exclusivement des hommes en 2023. Il est beau le progrès. Allez, alors même si Alice Winocourt n'a pas été nommée dans ces catégories, pour moi, son film me mérite au moins l'un des 2 prix, voire les 2. Je crois que je suis un peu en boucle, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous parle du film bouleversant qu'est Revoir Paris. Revoir Paris, c'est donc l'histoire de Mia, témoin d'un attentat dans un restaurant de Paris. L'événement la traumatise tellement qu'elle n'arrive pas à reprendre sa vie d'avant. Ses relations amicales et amoureuses sont détruites et elle se retrouve dans une impasse. Pour surmonter son traumatisme qui lui fait perdre la mémoire de ce soir-là, elle décide donc de partir à la recherche de ses souvenirs perdus. Dans ce parcours initiatique semé d'embûches, elle essaie de retrouver le bonheur et de revoir Paris, de revoir la vie. Alors c'est vrai que c'est pas un film super fun dont on va parler ce soir, mais c'est pas non plus un film dont on sort complètement déprimé. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Perrine.
Non, ah non, en effet.
Non. Alors j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai compris que Revoir Paris traitait des processus traumatiques. C'est un sujet qui me touche particulièrement et qui est souvent très mal représenté au cinéma. Mais Alice Winocourt a réussi là où beaucoup ont échoué finalement. Elle a réussi à retranscrire à l'écran la période de vide qui suit le traumatisme. Elle explique, je cite d'ailleurs, « Ce n'est pas tant l'attentat lui-même qui m'a intéressée, mais les traces qu'il a laissées chez les victimes. La période où on ne voit plus rien de ce qui nous entoure, où toutes les relations semblent compliquées à entretenir, où on est en boucle sur l'événement en question. » Alors, je ne vais pas vous mentir, pour celles et ceux qui ont vécu un traumatisme similaire ou même quelconque autre traumatisme, ce film peut remuer des choses que vous pensiez oublier. Et Perrine s'étouffe. Mais ce n'est peut-être pas pour le pire, parce qu'on voit finalement, principalement, la reconstruction d'une femme, Mia, qui essaie de comprendre comment sortir plus forte de cet événement. Mais Mia n'est pas la seule à essayer de le surmonter. On voit dans le film d'autres points de vue qui montrent qu'on ne guérit pas tous de la même façon d'un événement si choquant. Le personnage de Benoît Magimel, par exemple, Thomas, aurait préféré ne pas se souvenir de cette soirée-là. Parce qu'en fait, c'est important de comprendre quelque chose lié au traumatisme. En fait, en général, notre cerveau, en cas de choc ou de traumatisme violent, élimine automatiquement les parties les plus compliquées à gérer. Alice Winocourt a donc aussi laissé s'exprimer les proches des victimes qui, eux aussi, doivent apprendre à vivre avec cet événement d'une façon différente. On se rend compte alors de l'impact énorme qu'a un traumatisme. C'est pas seulement la vie d'une victime qui est touchée, mais c'est aussi ses amis et sa famille qui l'aident sans réellement comprendre. Le titre du film transparaît également dans la façon de filmer de la réalisatrice. Il y a beaucoup de plans de Virginie Efira au milieu de Paris où tout semble faux autour d'elle. On entend les bruits, le brouhaha de la vie, mais on ne la voit pas vraiment. Finalement, c'est pas un film sur le traumatisme ni sur une victime d'attentat, mais bien sur la réparation, la quête d'un bonheur perdu. Elle ne rejette pas ce qu'elle a vécu, mais elle est à la recherche de la vérité pour pouvoir surmonter la douleur. Revoir Paris s'adresse à toutes les victimes de traumatismes, pas seulement celles d'un attentat. On ne tombe jamais dans le pathos, au contraire. D'un événement si terrible peuvent ressortir des choses positives. Des liens forts entre les victimes et de nouvelles rencontres. Ce n'est pas un film sur la tristesse ou la colère, c'est un film sur la résilience et l'acceptation. Enfin, il y a quelque chose qu'on dit souvent aux personnes ayant vécu un événement terrible, et j'aimerais donc terminer là-dessus. On ne peut pas effacer un traumatisme, mais on peut apprendre à vivre avec.
Merci Morgane. Et tout de suite, on passe à la pause cadeau où Lola vous réserve une petite surprise à gagner. C'est tout de suite sur Prune. La pause cadeau.
Alors aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles du groupe de l'artiste Koki Nakano de son album Oceanic Feeling. Le pianiste néoclassique Koki Nakano explore le thème du sentiment océanique. Alors tente de gagner ces vinyles en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et on se retrouve avec la suite de l'émission et le morceau Mew de Koki Nakano. C'est tout de suite sur Prune.
Thank you.
vous venez d'écouter Koki Nakamo avec Muet. Et on retrouve à présent Chloé qui reçoit Guillaume Barriot, directeur artistique de la compagnie Biche Prod pour la deuxième édition du festival Audio Folk qui mêle création sonore et performance au nouveau studio théâtre ce week-end. Le Zoom, c'est tout de suite sur Prune.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Je le redis, vous êtes donc le directeur artistique de Biche Prod et vous venez ce soir nous présenter un événement qui se tiendra vendredi et samedi et que vous co-organisez, le festival Audio Folks. C'est la deuxième édition de cet événement qui propose de mêler les récits et le monde de l'audio. Et ce, à travers des créations sonores immersives, performances transmédia et concerts. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de mettre en lien récit et audio ? Quelle est l'inspiration, la volonté ?
L'inspiration, elle est assez simple. C'est que ça vient un peu de mon parcours, parce que moi, j'ai commencé à la radio, ici même à Prune. Enfin, pas exactement ici même, mais dans d'autres locaux un peu ailleurs. C'est mon premier travail. Et que après, j'ai fait de la création sonore pour le spectacle vivant pendant une quinzaine d'années pour des compagnies régionales et pas que. Et puis, j'ai décidé de mettre en scène mes propres spectacles. Mais à l'intérieur de ce travail, il y a forcément une identité assez forte au niveau du travail sonore. En tout cas, l'écriture audio est aussi importante que la partie texte ou que les lumières. Enfin, en tout cas, il y a une vocation à déhiérarchiser les différents médiums à l'intérieur des pièces. Du coup, je suis en co-résidence, en cohabitation au nouveau studio de théâtre depuis un an. On a la possibilité d'y organiser des événements et du coup, je dirais que c'est un événement qui ressemble à la compagnie, c'est-à-dire assez hybride, avec des formes un peu différentes, à la fois une ouverture à des choses plus de l'ordre du concert, tant que il y a une dimension récit qui est impliquée dans la production. En fait, c'est vrai que là, il y a des choses plus performatives et puis des choses qui sont presque de l'ordre du podcast ou de l'immersion sonore.
Donc pour interroger ces liens entre récit et monde de l'audio, vous proposez des spectacles qui prennent des formes très différentes, dont des performances transmédia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par performance transmédia ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors le transmédia, c'est vrai que c'est un nom un peu bâtard parce qu'il est surutilisé en ce moment et que finalement, dès qu'on place des éléments, des médiums différents à l'intérieur d'une pièce, par exemple, ou d'un spectacle vivant, on peut appeler ça transmédia. C'est vraiment des formes qui utilisent différentes modalités d'écriture et qui les intègrent dans la proposition. Quand je dis écriture, ça veut dire que chaque médium peut être créateur de son sens, de sens à l'intérieur d'une proposition globale qui du coup développe une forme générée par ces multiples intervenants. Par exemple, là, on travaille sur tout juste de répétition, on est en train de travailler sur une forme, une création éclair, j'appelle ça, parce qu'on l'a fait en une semaine, ce qui peut paraître un peu fou, mais ça fait aussi partie des modalités de travail qu'on s'impose et qu'on propose, puisque c'est des endroits où, avec le risque, avec la vitesse, avec l'urgence, on va sur des terrains où on ne serait pas allé forcément si on avait le temps de se poser, d'y réfléchir, de remédiatiser. Et là, typiquement, on peut parler de forme transmédia, puisqu'on est avec des spectateurs qui sont au casque. C'est une forme de conférence, une conférence-performance. Il y a un danseur qui intervient sur la pièce, un dessinateur, une dessinatrice pour le coup qui intervient en direct sur le panneau qui pourrait servir à un PowerPoint ou autre chose. Enfin, voilà, on est dans un endroit qui mélange différents moyens d'expression propres au travail scénique. Voilà, en gros pour le transmédia comme on l'entend.
Il est écrit sur votre site, Biche Prod, la compagnie défend un théâtre orienté vers les nouvelles écritures de la scène et la recherche de formes transversales entre spectacle vivant, art visuel, cinématographique et sonore. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans cette pratique, dans le fait de mêler plusieurs supports, d'un point de vue créatif, en quoi c'est intéressant ?
Je dirais qu'en fait, déjà, il y a une question de non-choix, c'est-à-dire c'est l'endroit où je me trouve et où je me retrouve. Je dirais qu'il y a aussi dans la description de la compagnie quelque chose qui parle du désir. Et je dirais vraiment que c'est ça qui est le moteur. Le premier moteur, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose. Et après, il y a des étiquettes dans lesquelles on se retrouve forcément, puisque nos travaux, nos formes, nos créations sont plus ou moins empreints de voilà, nous, on travaille sur le spectacle vivant avec des acteurs, avec des danseurs. Donc, on est dans cette grande famille. Mais à l'intérieur de ça, on ne s'interdit rien. Et on va aller chercher les ce qui nous paraît le plus approprié pour dire ce qu'on a à dire. Voilà, sans trop se fermer dans le truc, en ayant la confiance de se dire que finalement l'identité de la compagnie et de ses propositions, elle ne dépend pas de quel médium précis on va choisir. Voilà, dans le même cas, on ne s'interdit pas. On a fait une fiction radiophonique l'an passé. On a des installations immersives. On a fait un spectacle en rue. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas de... On ne s'est pas mis dans une case volontairement. On a des envies, on a des désirs, on les partage et on essaye de trouver le meilleur endroit pour que ça puisse s'exprimer. Je crois que ça vient de là.
Vous n'êtes pas seulement directeur artistique et co-organisateur du festival, puisque vous participez également à un des spectacles. Il s'appelle Je vais m'appeler Trou Noir et c'est justement une performance transmédia. Racontez-nous de quoi ça parle et quelle forme du coup prend ce spectacle.
Bah alors c'est cette histoire de conférence dont je parlais tout à l'heure. C'est une modalité qu'on n'a jamais fait. Et c'est un travail un peu particulier parce que Je vais m'appeler Trou Noir, en fait, ça parle. C'est une conférence sur un lutteur masqué existentialiste mexicain qui a plusieurs vies parallèles, donc qui est à la fois un être de fiction, mais qui a des prises avec la réalité. Et on essaye de donner une conférence, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, mais qui dégénère progressivement autour de ce personnage, puisque évidemment la fiction et la réalité ont tendance à se confronter, et on verra qui sort vainqueur de ce combat-là. Et c'est un endroit particulier, parce que ce lutteur, il s'appelle Black Hole, et c'est un personnage qui est issu du premier spectacle de la compagnie qu'on a fait en 2014, qui s'appelait Mantra, qui était l'adaptation d'un roman. Et c'est un personnage qui me suit depuis, voilà, et qui a une existence indépendante, qui a sa page Facebook, qui a une page Instagram, qui, par exemple, il est au centre d'un groupe de recherche franco-québécois sur les personnages de romans. Ça, c'est vraiment une recherche qui a cours avec des auteurs français et québécois. Il est un morceau de rock sur l'album de Vagina Town. Il a été DJ l'année dernière dans une soirée. Enfin, voilà, c'est comment un personnage, à la base, c'est un personnage de roman, et qui commence à avoir une vie un petit peu autonome, qu'on maîtrise plus ou moins. Et là, on essaye de s'emparer de cette personne du point de vue de la conférence et du mythe de ses origines. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair, mais bon.
Je vais m'appeler Trou Noir sera présenté vendredi et samedi. Et au programme, il y a 4 autres performances. Une conférence-performance sur le récit d'un voyage, un road movie musical, une installation sonore et un concert. Est-ce que vous pouvez nous les présenter chacun?
Oui, tout à fait. Bah, je vais peut-être commencer par l'autre conférence, qui est une conférence de Clément Vinette qui s'appelle « La mutation du jaguar bilingue ». C'est une proposition super maligne de quelqu'un qui part d'un voyage qu'il a fait avec sa copine de l'époque au Pérou et qui, via une espèce de dispositif presque à une connaissance du monde sur son voyage, va se perdre dans les méandres de la traduction d'une œuvre qui se crée en direct sur place. Bon, c'est un peu compliqué à résumer comme ça, il me tuerait s'il m'entendait dire un globi-boulga comme ça, mais voilà, ça c'est une proposition aussi de conférence, mais très ludique, on va dire. Et qui est amplifié, qui travaille aussi avec de la vidéo. Il y a Stomac Company, qui est une compagnie nantaise aussi, Stomac Company de Colline Morange et Vanessa Vallée, qui, elles, sont en recherche actuellement au Nouveau Studio Théâtre sur une forme de sorte d'installation immersive, voilà, autour des sexualités, du monde marchand, avec des témoignages qui sont diffusés dans des pièces de bureau, pour le coup, au Nouveau Studio Théâtre. C'est en jauge très limitée, c'est une réservation un petit peu à part. Et puis, deux formes plus concerts. Un, c'est Nosfell, donc qui est quand même un musicien qui est connu depuis assez longtemps et qui a la particularité d'avoir inventé sa propre langue, d'avoir créé un propre territoire. Il s'est tatoué les parties du territoire sur son propre corps. Donc ça mélange à la fois le récit et la musique via un concert en solo, donc voilà, ce qui est assez intimiste et assez cool avec lui. Et puis un groupe nanto-nazérien qui s'appelle Immensity of the Territory, qui eux sont 3 musiciens qui ont parcouru les États-Unis, qui ont filmé des images et qui ont enregistré un poète aussi sur place, comme on pourrait dire, appeler ça le slam poetry ou quelque chose de ce registre-là. Et qui proposent une sorte de voyage sonore et visuel dans leur road trip américain de l'époque. Voilà.
Dans 2 de vos spectacles, du coup, vous proposez une écoute par casque. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt qu'une diffusion plus habituelle sur des enceintes? Est-ce que c'est pour plonger davantage le spectateur dans la performance, le mettre dans une bulle?
Ouais, alors là, tu parles notamment de Airstream, là, qu'on jouait au lieu unique en janvier. Airstream, c'est l'adaptation scénique d'une fiction radiophonique. Avec un dessinateur. Bon, voilà, je simplifie toujours les choses. Mais je souhaitais que le spectateur, auditeur, le sonore soit la première voie d'accès pour ne pas être sur le terrain de on vient voir un spectacle qui produit du son, mais c'est le son qui nous amène vers la scène. Voilà, c'est juste une question de rapport. Et après, ça permet aussi un gros confort auditif de tricher aussi sur pas mal d'effets et de pouvoir spatialiser les événements, de presque faire sentir que ça se passe au milieu du désert américain, des canyons, et on peut travailler sur des ambiances sonores périphériques et jouer avec ça. Mais la première raison, c'est ça. Et là, par exemple, pour Je vais m'appeler Trou Noir, c'est aussi un peu, c'est une création éclair, un peu ludique. C'est aussi pour faire une phase test, voir ce que l'outil permet. Et là, en l'occurrence, ça nous permet de faire une conférence où on choisit quand les gens vont être attentifs ou pas, puisque ma voix peut disparaître à tout moment et que je continue de parler pourtant en conférence. Mais on joue sur les phénomènes d'attention en fait, qui sont propres à tout le monde dans une conférence, c'est-à-dire l'ennui, le fait de partir ailleurs, mais sauf que c'est nous qui décidons quand les gens doivent ne plus m'écouter ou pas. Voilà, en gros, c'est aussi une forme de jeu pour découvrir les possibilités que nous offre le médium. Voilà.
Et c'est la fin de notre entretien avec Guillaume Barriou, pardon. Merci beaucoup.
Merci à toi.
La deuxième édition du festival Audio Folk, c'est donc ce vendredi et samedi au nouveau Studio Théâtre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la compagnie Biche Prod.
Merci à Chloé pour ce Zoom. Avant de conclure cette émission, il y aura le micro-trottoir nantais avec ma chronique de La Vida Locale. Mais tout de suite, on écoute Janelle Monáe avec Django Jane.
Yeah, yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put them on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got them quiet. Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there. Straight out Kansas City, yeah, we made it out there. Celebrated, graduated, made it pass fail. Sassy, classy, Kool-Aid with the kale. Mama was a G, she was cleaning hotels. Papa was a driver, I was working retail. Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more. Moonlit nigga, lit nigga. Already got the Oscar for the Casa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space on a damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it, made out like a bandit. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gon' need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, pan right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We film the future, don't make it worse. You want the world, well, what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot? Who shot the sheriff, then fled to Paris? In the darkest hour, spoke truth to power. Made a fandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind. And paint the city pink, paint the city pink. And tuck the pearls in, just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back. Take a seat, you are not involved. And hit the mute button. Let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the gold, now would anybody doubt it? If she the gold, now would anybody doubt it? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it. Thank you.
local.
Et oui, et oui, mais la vida locale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une chronique micro-trottoir qui cherche à en savoir plus sur la routine des Nantais. Ayant grandi ici, je connais la ville comme ma poche. Elle n'a plus vraiment grand-chose à m'apprendre, mais ses habitants, eux, pourraient-ils me surprendre ? C'est pourquoi j'aime arpenter les rues armées de mon micro, afin de capter l'humeur et les ressentis des Nantais. Et pour le thème de cette semaine, j'ai été inspirée par un événement qui a lieu dans 5 jours, le 20 mars. Autour de la table, est-ce que vous auriez une petite idée ? Qu'est-ce qui se passe le 20 mars ?
20 mars ?
Et ouais.
C'est la journée de quoi ?
C'est en effet, c'est la journée du bonheur.
Oh.
Et oui !
Ils ont choisi le pire mois de l'année pour la journée
c'est
du
vrai,
bonheur.
C'est le pire
parce
mois.
Que le printemps. Bah, mars, c'est nul. Oh.
C'est vrai.
Les giboulées de mars. On n'est pas fan.
C'est vrai.
Vous auriez pu choisir juillet, juin, je sais pas.
Tu as raison, mais peut-être que justement, c'est peut-être pour être un peu plus original que cette fête a été proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, s'il vous plaît. Saviez-vous d'ailleurs que, depuis les années 70, le Bhoutan privilégie l'indice du bonheur national brut au PIB ? C'est d'ailleurs cette initiative qui a poussé les Nations Unies à trouver de nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur en allant au-delà des facteurs purement économiques. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un coup de blues, une grosse lose, hein, une mauvaise nouvelle, un down, quoi. Vous allez me dire, mais Elena, c'est évident, il suffit d'écouter Radio Prune, et on se sent tout de suite mieux. Et vous avez raison. Je suis quand même allée interviewer les Nantais pour savoir quelles étaient leurs autres petites astuces personnelles.
Et salut, nous sommes ce soir au bar du coin avec Léa. Léa, quelle est la question que tu as piochée ce soir ?
Ton type personnel pour évacuer la déprime et te mettre dans des good vibes. Et ben comme il fait un petit peu froid en ce moment, j'aime beaucoup écumer les coffee shops de Nantes et il y en a des très très cool. Il y a même un petit livret qui est sorti sur les meilleurs coffees. Et juste en fait c'est trop cool d'avoir des personnes qui t'accueillent, un super bon café, être au chaud et bosser, lire un truc, je sais pas, ça me met de bonne humeur.
Et sinon il y a un autre truc que je fais mais c'est pas pile au moment où je me sens pas bien. C'est un petit rituel que j'ai tous les soirs, enfin que j'essaye de faire tous les soirs, c'est d'écrire mes gratitudes. Donc en fait j'écris 3 moments de la journée qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait plaisir. Et en fait ça entraîne après mon cerveau à faire ça dans la journée. Je vois des petites pépites, genre si j'ai vu un rayon de soleil, si j'ai bien rigolé avec des amis, voilà des choses comme ça, si j'ai lu un livre qui me plaisait, et je l'écris dans mon carnet. Et ce qui est fou, c'est qu'après quand je relis mon carnet le soir, je vois des gratitudes des jours d'avant, et ça me donne des bonnes pensées avant de dormir. Voilà.
Trop cool, merci Fanny pour ces tips.
Écouter de la musique qui est genre qui est considérée par la plupart genre pas cool, tu vois, ou je sais pas, enfin pas cool c'est un peu gros comme terme, mais genre un peu un kink musical, tu te le mets en boucle à fond dans l'appart et puis je sais pas, tu fais un truc qui te plaît, que ce soit fumer une clope, jouer aux jeux vidéo ou quoi, peu importe, mais genre tu te mets un truc vraiment que tu te sens bien, tu vois, ouais voilà, juste, ouais, un petit truc un peu intime musicalement et tu te dis je le partage pas mais c'est feel good quoi, voilà, tu vois.
Salut, alors nous sommes ici en, j'allais dire en after, mais non, on est en before, à Bouffay, dans un appartement.
Je m'appelle Vered, bonjour.
Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta solution ?
Premier tip, c'est de rentrer un petit peu dans la déprime, peut-être pas trop, mais un petit peu, de juste assumer que tu te sens pas forcément bien, que c'est pas forcément grave, que c'est humain, c'est normal, ça arrive à tout le monde, il y a des périodes comme ça ou des jours comme ça. Et du coup, après, qu'est-ce que je fais ? Bah, soit je sors, même toute seule, tu vois, je vais peut-être aller voir un film, me balader, je sais pas, peut-être envoyer quelques messages à des potes, pas forcément pour parler de ce que je ressens, mais juste pour avoir un petit peu de contact.
Morale de l'histoire, chers auditeurs, il y a plein de manières de se sentir mieux quand on a un coup de blues. Merci aux Nantaises et aux Nantais pour leurs tips et à bientôt pour un prochain épisode de La Vida Locale. Et là, j'essaie de changer de voix pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui parle, mais non, c'est bien moi qui reprend l'animation pour terminer.
Je tiens juste à dire que tu as toujours les meilleurs plans quand même. En fait, c'est juste une excuse, ta chronique, pour aller en soirée. Avoue-le, tu nous trouves tous les meilleurs before et after.
Ça y est, le masque est tombé, je suis découverte. tu as tout deviné, Morgane. Et curiosité, ça touche à sa fin ce soir, malheureusement. Je remercie la team du mercredi avec Perrine pour le grand entretien, qui avait comme invité ce soir Alexis Chevalier, metteur en scène. Morgane, ce soir tu recevais
Personne, parce que tu...
Moi-même.
Chacun peut
Virginie
avoir une double...
Virginie Fira en exclu, mais elle n'était pas là.
Oui, voilà, malheureusement, elle n'avait pas pu ce soir. Elle a dû annuler la dernière seconde. Aïe, aïe, aïe. La chronique du quatrième mur, c'était ta chronique, Morgane. Chloé, pour le Zoom, ce soir, tu recevais Guillaume Barriou de la compagnie Biche Prod. Et à la Réal, nous avions le merveilleux Seb, bien sûr. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site Prune, www.prune.net. Retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Comme toutes les semaines, l'émission du jeudi est placée sous le signe de la musique, où nous recevrons pour un live en studio l'artiste Bastong, un musicien qui joue avec ses tongs. Et oui, ça attire votre curiosité, la mienne également. Alors rendez-vous demain à 18h sur Curiosité. Tout de suite sur Prune, c'est... Le Labo des Savoirs qui démarre, l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h. Et en podcast sur prune.net.